Genèse au chapitre 2, versets 7 à 9, et le chapitre 3, versets 1 à 7. Genèse au chapitre 2, versets 7 à 9, et le chapitre 3, versets 1 à 7, au nom de Jésus. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, là-bas vers l'est, pour y mettre l'homme qu'il avait façonné. Il fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie, et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais... quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bien ou mal. La femme vit que les fruits de l'arbre étaient bien jolis à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea, puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand le souffle, la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin, ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Amen. La façon déjà dans notre péricope a été coupée en deux. Et choisi ici par le lectionnaire, nous force à se poser la question où veulent-ils en venir avec ces petits morceaux et petits bouts de texte? Je ne saurais ce qui en est réellement dans la tête de ceux qui ont choisi les textes, mais une chose qui a attiré mon attention personnelle, c'est la répétition rien que dans les trois premiers versets. Le mot poussiéreux ou plutôt glébeux. En regardant le texte hébreu, voici la traduction littérale. Donc, il n'y a pas une construction de phrase normale, mais c'est une traduction littérale. Adonai Elohim forme le glébeux. Adam, poussière de la glèbe, Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie, et c'est le glébeux, un être vivant. Adonai plante un jardin en Éden au levant, il met là le glébeux qu'il avait formé. Adonai Elohim fait germer de la glèbe tout arbre. Vous voyez, le mot glèbe revient à chaque fois. On ne le voit pas bien dans le texte français, mais si on le lit dans le texte hébraïque, tout de suite, ça saute aux yeux. On voit que l'auteur attire l'attention du lecteur vers ce mot « glébeux ». Donc ce terme, la glèbe ou le glébeux, qui revient à chaque fois, qui signifie l'humain tiré de la poussière. Adam est aussi donc appelé Adam le glébeux. Celui qui a été tiré de la poussière. Il n'était que poussière, mais sans le souffle de Dieu, il ne serait pas en vie. C'est-à-dire que sa vie dépend du souffle de Dieu qu'il a reçu. Et ensuite, le narrateur dit que les arbres fruitiers qui a assuré la survie de l'homme provient aussi de la glèbe. Regardez le lien. Même les arbres fruitiers proviennent aussi de la glèbe. Cela veut dire que l'homme est un être totalement dépendant dès sa création. L'homme n'a pas été créé pour être indépendant dès sa création, dès son origine. Il ne peut vivre par lui-même, même s'il est intelligent. C'est ce qui fait son identité, mon identité, ton identité, c'est la finitude. Nous sommes des êtres limités et donc nous dépendons de quelque chose ou de quelqu'un. Nous dépendons de Dieu, de la nature. Alors là, ça tombe à l'eau, tous ceux qui se disent « Moi, je n'ai ni Dieu ni maître, c'est impossible !» Un être humain a été créé pour dépendre de quelque chose. Ça peut être son travail, ça peut être son argent, ça peut être sa force physique, ça peut être sa famille, peu importe la forme, mais nous sommes des êtres dépendants. Il a beau être le roi de la nature, mais sa vie dépend de Dieu et de cette nature que Dieu a créée. Voilà ce qui est du premier morceau de notre péricope. Dans le deuxième morceau de notre texte, nous voyons la ruse du diable qui essaie de convaincre l'homme à ne pas accepter cette identité-là. Ne pas accepter d'être un être dépendant. Qu'est-ce que le diable avait promis? Il lui promet de l'émanciper de Dieu, de ne plus dépendre de Dieu, et que par lui seul, il pourrait savoir le bien et le mal sans consulter l'avis de Dieu. Voilà la ruse. Tu seras indépendant. Tu n'auras plus besoin de Dieu. Tu seras ton propre Dieu. Le mensonge du diable est si flagrant, mais malheureusement, le venin du vieux serpent a mordu. Comment un glébeux dans sa vie dépend totalement de la terre pourrait-il s'émanciper de Dieu, chers frères et amis? Il pourrait dire qu'il n'a pas besoin de Dieu, l'être humain. Mais l'illustration que moi j'ai trouvée en préparant cette méditation pour expliquer que c'est une aberration, c'est comme une nation, par exemple, prenons un pays qui souffre de malnutrition, qui n'arrive pas à nourrir sa population et qui se vante devant le ciel et la terre et devant le monde entier qu'il est capable de construire une fusée pour aller dans la planète Mars. Il y a des pays comme ça. Il n'arrive pas à nourrir sa population, mais il se vante de créer quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu ça l'être humain. Et voilà la ruse du diable qui a fonctionné, c'est de faire croire à l'homme qu'il sera comme Dieu, intelligent, et de lui faire oublier qu'il n'est qu'un glébeux. Ce texte résume bien ce qui est de la vie de l'être humain dans le monde. Nous avons eu, nous, êtres humains, cette utopie de l'autosuffisance. Mais il oublie, comme disait bien Martin Heidegger, je vis parce que je suis un être vivant. J'aime bien cette phrase de Heidegger. Je vis parce que je suis un être vivant. Tant que le souffle de Dieu est là, j'existe. Et dès que ce souffle n'est plus là, alors je deviens que de la boue. Quels que soient mes diplômes, quels que soient mes titres que j'ai dans la société, tu n'es que de la boue. Je vis parce que je suis un être vivant. Vous savez, chez nous à Madagascar, sur les hauts plateaux, il y a une pratique animiste, je ne dis même pas ancestrale, c'est une pratique animiste, qui est encore assez suivi par la plupart de la population dans cette région, le retournement des morts tous les 7 ans. Tous les 7 ans, les familles se réunissent, même la diaspora vient. C'est un grand événement pour remettre les linceuls autour du reste de la dépouille des ancêtres dans les caveaux familiaux. Et quand on voit ce qui en reste, malgré la renommée, la célébrité de cet individu, de son vivant, parce qu'on fait des éloges pendant ce moment-là, les gens se disent entre eux et on entend dans les discussions, la vie sur terre n'est rien du tout. Tu as beau réussir dans la vie, avoir tous les honneurs possibles, mais tout compte fait, nous ne sommes que des glébeurs. Et en disant les choses ainsi, je ne dévalorise pas l'être humain. Non, ce n'est pas cela, au contraire. Mais il faut reconnaître ce qu'on est réellement. À la suite de ce qu'a dit Heidegger encore, « Je vis parce que je suis vivant », alors j'ai mis cela en parallèle avec la parole d'Ésaïe, qui lui aussi à son tour disait dans Ésaïe chapitre 2, verset 22, « Cessez de compter sur l'être humain, sa vie ne tient qu'à un souffle ». Quelle valeur lui reconnaître ? Ce n'est pas du tout une forme d'humiliation de l'être humain, mais un constat de la réalité. Et ce constat-là est amer, parce qu'on ne veut pas l'accepter. Cette réalité-là. La non-acceptation de sa finitude, en suivant la parole du serpent et non celle de Dieu, a encore plus poussé l'homme à faire un constat douloureux de ce qu'il est. Regardez bien dans le texte, le couple croyait atteindre le niveau de Dieu, mais la chute est douloureuse lorsqu'ils ont constaté qu'ils étaient nus. Avant, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus, parce qu'ils étaient englobés de la gloire de Dieu. Et Elohim lui-même leur en dit, « Mais qui vous a dit que vous êtes nus ?» Donc sa nudité qui ne posait pas de problème devenait tout à coup problématique. Et voilà le résultat. Lorsqu'on se prend pour Dieu, on voit qu'on est nu. Et intéressant de faire le lien entre la nudité et la glèbe. J'ai regardé dans le texte de l'Ancien Testament, il y a un lien si proche entre la nudité et la poussière. Dans l'Ancien Testament, Job a fait ce lien. Dans Job chapitre 1, verset 21, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre. » Vous voyez ce jeu de mots ?« Nu, sorti du ventre de ma mère, nu je retourne vers la terre. » Donc le diable, lui, rusé qu'il est, il a fait croire autre chose. Il est dit dans le texte qu'une fois qu'Ève a écouté le serpent, qu'elle croyait qu'elle avait les yeux ouverts, mais ce n'était que le contraire, une pure aveuglement. Et là, je reprends encore une phrase d'un monsieur qui s'appelle Jacques Casterman. « Je crois ce que je suis, ce que je pense, ce que je suis. » C'est ça le problème. « Je crois ce que je suis, ce que je pense. » Ce que je suis. Et là, dit-il, que l'homme tombe dans une malaise qui lui est propre, l'état d'être soucieux, l'état d'être angoissé. Il croyait autre chose. L'homme est dans sa bulle, mais quand cette bulle s'éclate, et là, il se rend compte qui il est vraiment. Mais voilà cette finitude de l'homme est voulue par Dieu. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une punition. Il ne faut pas le voir comme étant une malédiction dont il faut s'en débarrasser, loin de là. C'est pourtant ce que le diable avait proposé à l'homme. Notre finitude, chers amis, nous pousse dans les bras du Père. Puisque tu es faible, puisque tu n'as pas de force, confie-toi à l'Éternel. Lui confier le choix de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, parce que tu n'as pas les épaules pour ça. Tu n'as pas la force, la capacité de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Même si on a toujours dit qu'il y a le libre arbitre, c'est de l'utopie le libre arbitre. Tu n'es jamais libre dans tes choix. Tu es toujours sous influence, que ce soit ton éducation, que ce soit la société, que ce soit le contexte où tu vis, que ce soit ta vie même. Tout cela entre en jeu dans le choix que tu fais. Même si tu dis « j'ai décidé », ce n'est pas vrai. Cette finitude a été comprise comme étant les chardes dans la chair chez Paul. Il a fallu passer par un souci. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que Paul a eu. Un souci soi-disant de santé peut-être. D'autres disent que Paul avait un problème de bégaiement, peu importe. Mais grâce à cette conscientisation qu'il croyait comme problématique, c'est là que Paul a compris que sa faiblesse n'est pas du tout mauvaise comme il le pensait. Quand il a compris que c'est dans cette faiblesse-là que le Seigneur œuvre, alors son cri de désespoir a changé en chant de louange. Et c'est quoi ce chant de louange ? « Je mettrai donc plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, dit Paul, pour que la puissance du Christ repose sur moi. Oh, suis-je, me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible, je suis fort. » Voilà quelqu'un qui a ouvert les yeux. Mais il a fallu passer par toutes ces tribulations pour comprendre que cette faiblesse-là, il ne faut pas s'en débarrasser, il faut même le prendre à bras le corps. Et le transformer comme le potier qui change la boue en vase céramique magnifique. La faiblesse, elle est toujours là, mais elle peut être utilisée par Dieu pour lui donner gloire. Alors, quel intérêt de laisser à Dieu de savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais pour nous? Quel est l'intérêt? Pourquoi lui céder cette place? La réponse est simple. Le titre de sauveur ne se sépare jamais du titre du Seigneur. Le Christ est notre sauveur et Seigneur. Nous ne voulons pas entendre cette deuxième partie, Seigneur. Seulement, tu es mon sauveur. Sauve-moi de tous mes problèmes, Seigneur. Mais Seigneur, ça nous dérange. Ça, c'est mon jardin secret. Ça, c'est moi qui décide. Là, tu n'entres pas en jeu. Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous sauve de nous-mêmes. Il nous sauve de nos erreurs d'analyse, de nos propres conceptions de la vie, qui nous coûtent très cher. Combien de fois beaucoup de gens se sont cassés les dents à cause de leur propre vision de la vie. Alors le Seigneur veut nous préserver des souffrances inutiles en lui confiant les rênes de notre vie. Il souhaite te sauver, il souhaite t'épargner de beaucoup de choses, mais cela ne pourra pas se faire si nous décidons seuls, avec notre propre jugement, ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. Alors pour clôturer cette méditation, je reprends la parole dans une belle parole des Proverbes. « Mon enfant, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. » Amen.